Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, ravi de vous retrouver en direct de nos studios parisiens après une semaine passée à N'Djamena au Tchad. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes comme tous les matins notre débat du jour. On attend vos réactions au coup d'envoi de la campagne électorale au Sénégal en vue de la présidentielle qui se tiendra finalement le 24 mars. Depuis vendredi minuit, les candidats ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. Alors qu'attendez-vous de cette campagne maintenant que la nouvelle date de la présidentielle est connue? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Diriez-vous que la crise politique est derrière vous? On en parle, vos réactions nous intéressent et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous rejoindre au standard 33 9 693 693 70, mais aussi sur nos réseaux sociaux et comme tous les matins évidemment, je lirai quelques-unes de vos réactions pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, votre rendez-vous privilégié avec les journalistes de RFI et nous allons commencer avec une question justement sur la présidentielle sénégalaise. Bonjour Alceni.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Monrovia, au Libéria. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
On vous écoute.
Comment les 19 candidats comptent-ils organiser leur campagne électorale à l'espace de quelques jours?
Oui, c'est une bonne question que vous posez. Bonjour Léa-Lisa Vesteroff.
Bonjour Alceni.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. C'est vrai que l'annonce de la nouvelle date de la présidentielle a été confirmée jeudi. La campagne, je le disais en préambule, a commencé vendredi à minuit. Finalement, ça a laissé très peu de temps aux candidats pour organiser leur campagne.
Oui, ils ont dû se réorganiser en un temps record, vous le disiez, jeudi et vendredi, pour démarrer les meetings de campagne dès ce week-end, surtout dans la capitale Dakar, et maximiser ce temps, notamment parce qu'aujourd'hui commence le Ramadan, ce qui complexifie un peu plus cette campagne électorale. Difficile de faire des grands rassemblements avec de la musique, par exemple, en plein mois de prière. La plupart des candidats ont reprogrammé leur meeting pour la fin de journée, voire la soirée, une fois que les Sénégalais auront rompu le jeûne.
Oui, en tout cas, la campagne a bel et bien été lancée.
Oui, Juan, dès vendredi nuit, des caravanes électorales ont commencé à défiler à Dakar. Le candidat de la majorité, Amadou Ba, a ouvert le bal dès samedi en démarrant sa campagne à Dakar. Hier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en fin d'après-midi pour le premier meeting du parti dissous de l'opposition, le PASTEF, dans le quartier populaire de Parcelles à Séni. Les militants sont venus en masse soutenir leur candidat Bassirou Diomaye Faye, qui remplace le leader Ousmane Sonko, écarté du scrutin présidentiel. Vous vous en souvenez, suite à sa condamnation à 6 mois de prison, les deux figures sont les grands absents de cette campagne pour l'heure, car tous les deux derrière les barreaux.
Oui, impossible, Léa-Lisa Vesteroff, de citer tous les candidats, mais plusieurs d'entre eux ont organisé des rassemblements hier dimanche.
Oui, Aliou Mamadou Dia, du Parti de l'Unité et du Rassemblement, par exemple, a défilé à Rufisque. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a défilé dans les quartiers populaires de la capitale, Gueule Tapée et Koloban. Ou encore la seule femme de cette présidentielle, la candidate Anta Babacar Nghom. Beaucoup de candidats disent qu'ils vont changer de stratégie pour cette campagne extrêmement courte. Faire plutôt des visites de quartier et du porte-à-porte plutôt que d'énormes rassemblements.
Et la campagne se terminera le vendredi 22 de mars à minuit. Vous avez une autre question, Alceni?
Oui, tout à fait. Face à la crise politique qui secoue le pays, cette annonce peut-elle apaiser les tensions liées au report de l'élection?
Ah, maintenant que les Sénégalais sont fixés sur la nouvelle date, Léa-Lisa Vesteroff.
C'est un début d'éclaircie. En tout cas, on peut dire que organiser les élections avant le 2 avril était la demande de 17 au moins des 19 candidats, une majorité donc, et demande aussi de la société civile, les différentes plateformes, notamment celle qui s'est créée le plus récemment, Arsounou Élections, Protéger notre élection, l'ont toutes dites. Elles voulaient une présidentielle avant la fin du mandat du président Macky Sall. C'est désormais chose faite. Donc, c'est un début d'éclaircie, je le disais, dans la crise politique majeure que traverse le Sénégal depuis le report à la dernière minute de cette présidentielle qui devait se tenir le 25 février.
Le 25 février, mais les tensions, on a comme l'impression, Léa-Lisa Vesteroff, qu'elles restent vives tout de même.
Oui, et notamment... Oui, et notamment du côté du PDS de Karim Ouad, qui a annoncé vouloir attaquer aujourd'hui devant la Cour suprême le décret de convocation des électeurs pour la présidentielle du 24 mars. Selon ce parti et quelques autres candidats recalés, cette convocation viole la loi électorale qui prévoyait 21 jours de campagne. Autre signe que le climat politique est électrique, la RTS, la chaîne de télévision publique, a refusé hier d'accorder aux candidats de l'opposition Bassirou Diomaye Faye son temps d'antenne et de diffuser sa vidéo de campagne de 3 minutes. Son directeur de campagne avait enregistré cette vidéo samedi à la place de Bassirou Diomaye Faye, vu que le candidat est encore en prison. Impossible à trancher l'autorité de régulation des médias, le CNRA, qu'une autre personne s'exprime à la place du candidat. Vous vous en doutez, cette décision suscite de vives critiques au sein de l'opposition.
Et on en parlera tout à l'heure, évidemment, dans la deuxième partie avec les auditeurs. Alceni, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bien sûr. Très ravi.
Bah, tant mieux. Merci de votre fidélité. Continuez à écouter RFI à Monrovia, au Liberia. Et merci à vous, Léa Lisa Vesterov, correspondante permanente de RFI à Dakar, où il est 8h16. Des questions maintenant sur le Premier ministre malien de transition, Choguel Maïga. Bonjour Kassoum.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. J'ai entendu qu'une frange du mouvement malien, le M5-RFP, avait destitué Choguel Maïga de son poste de président. Alors, que reproche cette partie du mouvement au premier ministre de transition? Est-ce que ces discordes au sein de la coalition peuvent avoir des conséquences sur son avenir au sein du gouvernement de transition?
Ah, et quel avenir pour Choguel Maïga à la primature? Peut-il rester premier ministre, effectivement? Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour. Kassoum, bonjour.
Correspondant régional de RFI pour le Sahel. La semaine dernière, Choguel Maïga a donc été destitué de son poste de président du mouvement du 5 juin. Le M5, Serge Daniel, qui semble secoué par des divisions internes.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut préciser que le MSEC, le mouvement du 5 juin, est un mouvement politique qui a entraîné la chute de l'ancien président Ibeka en août 2020. Alors, en 2021, il y a eu un autre coup d'État au Mali, comme vous savez. Les militaires installent à la primature cette fois-ci Choguel Maïga, mais le M5 va se scinder en deux et Choguel Maïga va rester à la tête d'une branche comme président du comité stratégique. C'est cette branche qui est en crise. L'autorité du Premier ministre est contestée. Il a été destitué le 5 mars par une dissidence qui lui reproche de ne plus faire le consensus, de travailler, je cite, à affaiblir le mouvement. Et les membres du M5 sont allés plus loin en affirmant que le Premier ministre travaille pour ses seuls intérêts. Choguel Maïga a pris publiquement la parole pour dire qu'en réalité, des militaires, donc des membres de la junte, travaillent à affaiblir le mouvement pour le pousser vers la sortie.
Et selon Choguel Maïga, effectivement, certains militaires seraient à la manœuvre pour déstabiliser son mouvement. Dans ces conditions, peut-il rester à la primature ?
Alors, disons qu'il est déjà affaibli, hein, il s'est affaibli tout seul, il n'a plus le soutien de l'imam Mahmoud Diko, qui était l'un des poumons du M5. Hein. Alors, ses proches n'occupent pas les postes régaliens dans le gouvernement, par exemple, M. Ibrahim Ikassa Maïga, proche du Premier ministre et actuel ministre de la Refondation de l'État, n'a aucun poids au sein du gouvernement.
Mais cette nouvelle situation, Serge Daniel, est-ce qu'elle ne fragilise pas davantage politiquement Choguel Maïga ?
Alors, en tout cas, pour bon nombre d'observateurs, politiquement, il est en sursis. Ou du moins, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, peut se séparer de lui, peut le débarquer plus facilement aujourd'hui, s'il le juge nécessaire, à moins qu'il ne le garde encore un moment pour, permettez l'expression, mieux l'user.
Oui. Choguel Maïga a essayé de reprendre la main après sa destitution du mouvement du 5 juin. Il a convié jeudi dernier l'ensemble de la classe politique. Comment s'est passée cette rencontre ?
Alors effectivement, on peut dire que c'était pour notamment reconstituer, reprendre la main après avoir été éjecté du M5, mais cette rencontre a été pour lui plutôt, permettez-là aussi l'expression, mais c'est la réalité, un flop, hein, un grand flop. Mmh. De nombreux partis politiques ont boudé, ont boycotté la rencontre, il a passé son temps à nous traiter de tous les mots, maintenant il est noyé, il veut se servir de nous, qu'on suit par exemple un homme politique malien, et puis dernière information qu'il a probablement pas fait plaisir au Premier ministre, qu'il a faibli davantage. Un de ses proches partisans a été écroué la semaine dernière après une plainte déposée par un responsable de la branche du M5 qui vient de le destituer, vous voyez, pour l'ambiance froide.
Effectivement. Avec Kassoum, voilà pour les explications concernant les déboires politiques de Choguel Maïga. A-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, totalement.
Oh, le réseau se dégrade avec la capitale malienne, puisque vous êtes à Bamako, Kassoum. En tout cas, j'ai entendu que oui, vous avez entendu les explications et vous êtes satisfait des réponses de Serge Daniel. Bonne journée à tous les deux. Il est déjà 9h20 à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction. Si vous prenez en cours cette émission, sachez qu'à tout moment, vous pourrez réécouter les explications de la rédaction qui répond à vos questions. Rendez-vous évidemment sur l'application RFI Pure Radio. Vous l'avez suivi tout au long de la semaine dernière sur RFI, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française, ça a suscité quelques questions au Standard et notamment Donald qui est au Togo. Bonjour Donald.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Ok, merci. J'ai entendu sur RFI que l'inscription de l'IVG dans la Constitution française a été largement adoptée, le premier mondial. Pourquoi certains sénateurs et députés étaient réticents à cette révision constitutionnelle?
Ouais, c'est vrai que la France est devenue le premier pays au monde à inscrire formellement l'IVG dans sa constitution. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre.
Merci pour l'invitation.
Journaliste au service France de RFI. Alors certes, la loi a été votée à une écrasante majorité du Congrès, mais la réforme constitutionnelle a donné lieu quand même à d'importants débats, particulièrement au Sénat.
Oui, tout à fait. Bonjour Donald et merci pour votre question intéressante. Vous l'avez rappelé, Juan, le vote au Congrès a donné lieu à un résultat sans appel, 780 voix pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution sur 902, mais il y avait effectivement des réticences au sein de la droite notamment, et pas forcément l'extrême droite d'ailleurs, notamment pour des raisons purement politiciennes, j'aimerais déjà évacuer ça. À l'époque, la droite était tentée de se venger, dirons-nous, en retardant le cheminement du texte, en provoquant son échec pour répliquer à la censure partielle de ces dispositions dans la récente loi immigration. On passe ça, c'est de la pure politique. Ça n'a pas été le cas finalement, on l'a dit, le texte a été adopté. Il y a eu des réticences sincères, puisque si aujourd'hui le débat pour ou contre l'IVG est tranché en France, hein, personne ou presque ne s'y oppose, des responsables politiques défendent ardemment ce que l'on appelle la clause de conscience. Pour faire vite, en France, un médecin ne peut pas être forcé de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, et inscrire l'avortement dans la loi fondamentale, la Constitution, a fait craindre à plusieurs élus, notamment du Parti des Républicains, que cela annule de fait la clause de conscience, que la constitutionnalisation de l'IVG crée en fait un droit opposable.
Mais on a bien suivi les débats aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les débats ont permis de lever ces doutes.
Oui, la formule sur laquelle se sont entendus les parlementaires n'est pas droit à l'IVG, mais liberté garantie à la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, c'est ce qu'on a le plus entendu dans les différents hémicycles. D'autres s'y sont opposés en estimant que c'était parfaitement inutile. Alors au final, une écrasante majorité a voté pour. On s'est aperçu que beaucoup de parlementaires de droite avaient fini par changer d'avis, notamment sous pression de leurs enfants. Certains ont dit, sous couvert d'anonymat, qu'en votant contre le texte, ils prenaient le risque de ne plus voir leurs enfants venir au réveillon de Noël.
Oui, la pression de leur entourage, mais aussi la mobilisation des associations ont eu raison, donc des hésitations de certains sénateurs de droite. Vous avez une autre question, Donald?
Concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'accès à l'IVG en France?
Ah. Alors, Donald, pour faire très simple, ça va quasiment rien changer juridiquement si cette inscription permet une protection supplémentaire, à savoir qu'on ne pourra désormais plus supprimer l'accès à l'IVG autrement qu'avec une longue et difficile réforme constitutionnelle. Cette liberté de recourir à l'avortement était en réalité déjà très protégée, notamment par un avis du Conseil constitutionnel. Ça remonte à 2001, un avis dans lequel les sages considèrent que l'IVG est déjà garantie par la norme suprême, notamment au nom de la liberté de la femme.
Mais alors pourquoi l'avoir inscrit dans la Constitution?
Eh bien, déjà, il faut rappeler que ça a été fait en réaction à une décision de la Cour suprême américaine de juin 2022. Elle avait décidé de ne plus garantir au niveau fédéral l'avortement, donc de laisser le choix aux États américains de l'autoriser ou non. Ça avait effrayé de nombreux militants féministes et envoyé un signal assez négatif, il faut le dire, dans les démocraties européennes. La France, par cette réforme constitutionnelle, entend en fait surtout adresser un message au monde en réaction. Elle est devenue le premier pays à le faire, on l'a dit, le premier pays à inscrire explicitement interruption volontaire de grossesse dans son principal texte. L'idée a déjà été reprise dans un autre pays, l'Espagne, où un parti de gauche radicale, Sumar, membre de la coalition au pouvoir, a dit la semaine dernière vouloir constitutionnaliser l'IVG. On peut aussi citer tous ces journaux américains de tendance progressiste, je vais y arriver, qui ont salué la décision française. Et puis un autre effet de la réforme, Donald, c'est qu'on en parle tout simplement ensemble sur RFI ce matin. Vous voyez, ça n'est pas forcément utile sur le plan juridique, mais sur le plan symbolique et politique, ça fait un effet notable depuis plusieurs jours.
Et Emmanuel Macron veut aller plus loin puisqu'il souhaite inscrire la liberté de recourir à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donald, a-t-on répondu à vos questions ?
Très bien même.
Très bien, même.
Bonne journée, cher Donald, et mes salutations à Lomé.
Au Togo. À bientôt, Raphaël Delvolvé, journaliste au service politique de RFI. Nous allons parler, pour la dernière question de ce matin, de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour Anna, bonjour à tous les hôtes de l'émission.
Merci de nous appeler de Kinshasa, nous vous écoutons.
Bon, après plusieurs jours de bataille, la ville de Niangale au nord de Koma est maintenant entre les mains du M23. Alors j'ai des questions.
Oui.
Comment expliquer cette défaite de l'armée congolaise face aux rebelles ?
Oui, la ville de Nyanzale, dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, elle est désormais sous le contrôle des rebelles du M23. Bonjour Adolphe Agenonga Chaubert.
Bonjour Juan.
Professeur à l'université de Kisangani, spécialiste des questions de sécurité en République démocratique du Congo. Nyanzale est donc tombé aux mains du M23 après d'intenses combats. Que s'est-il passé la semaine dernière ?
Oui, bien entendu, Nyanzale est passé sous le contrôle du M23, une autre entité qu'on appelle Rwindi, qui, elle, est passée sous le contrôle du M23, sans la moindre résistance des militaires congolais qui ont décidé de battre en retraite. Alors, qu'est-ce qui explique les défaites en série de FARDC ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments de réflexion à ce niveau-là. Alors, le premier élément de réflexion s'explique par l'empilement, c'est-à-dire la superposition des commandements de FARDC, ce qui, sur le terrain, semble fragiliser la coordination, créant des commandements parallèles. Alors, le deuxième élément, au cours de ces derniers mois, nous avons assisté à une série d'arrestations d'officiers congolais, en suivi, bien entendu, de défections de certains officiers qui ont décidé de rejoindre le M23. Et cela a donné l'impression du fait que certains officiers sont en collision, sont en de mèche avec le M23. Et enfin, un autre élément de réflexion, il y a les contingents de la SADC, c'est-à-dire SAMI DRC, qui ont été déployés depuis le mois de décembre, qui ont justement un mandat offensif et qui sont censés venir en aide au FARDC. Mais ces contingents semblent accuser une certaine léthargie, vraisemblablement, à cause de la déficience de moyens pour mener des actions offensives contre le M23.
Donc, à vous entendre, le M23, les rebelles, gagnent peu à peu du terrain.
Le M23 gagne peu à peu du terrain, mais ce qui est curieux, des entités entières sont tombées comme de fourmis les uns après les autres. C'est ce qui a effectivement jeté une lumière crue sur, je dirais, la faiblesse de la chaîne de commandement. Et je le disais tantôt, il n'y a pas un seul commandement, mais il y a plusieurs commandements. Il y a plusieurs officiers qui... Il y a par exemple la région militaire, il y a aussi les commandements de Ouazalendo, etc. Et du coup, ça crée le problème de coordination des opérations, comme on l'a vu, par exemple, le M23 qui avait censé multiplier des attaques sur Sake, mais comment il a été... il s'est heurté à une résistance de FARDC. Il a créé une sorte de diversion, oui. Je dirais, pour ouvrir de nouveaux fronts où, effectivement, il n'a pas rencontré beaucoup de résistance.
De résistance en face, effectivement. Merci Adolphe Agenonga Chaubert d'avoir été...